Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas. Ça y est, on a dépassé, on est dans la vingtaine d'épisodes, on est à l'épisode 20, on arrive à la fin, j'allais dire du périple, mais surtout du challenge, et nous sommes le réveillon de Noël. Donc encore une fois, passez de bonnes fêtes, que vous soyez seul, que vous travaillez, que vous le passiez en famille ou avec vos amis, etc. Ou que vous ayez décidé de ne pas le fêter. Encore une fois, plein de bonnes ondes, plein d'amour. Et je suis très honorée que vous passiez un petit peu de votre temps pendant votre réveillon ou quelques jours, quelques semaines plus tard à rattraper ce podcast. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode d'hier, je voulais faire un bilan 2023 côté écriture. Pas vraiment côté lecture, ça va venir un peu dedans, mais c'est pas le truc principal. Et donc je vais reprendre le tag de Alice Posière, qui est l'autrice de À vivre avec aux éditions Scrinéo. Elle l'a créé il y a quelques années. C'est un tag qui s'appelle The End of the Year Writing Tag, qui a été repris par plusieurs bookstagrammeuses, créatrices de contenu, autrices. J'avoue ne pas être encore allé voir ce que les collègues avaient fait cette année. J'ai vu que le tag était passé, mais je voulais pas être influencée. Donc j'ai tout enregistré, que ce soit niveau podcast, niveau vidéo YouTube, et même les posts un peu, parce que certains l'ont fait sous forme de post Instagram. Ce genre de choses, bref, tous les contenus. J'ai mis ça de côté pour aller voir ensuite. Et donc, je vais sortir les petites questions. On rentre dans le vif du sujet aujourd'hui. Il y en a une dizaine et on va essayer d'avancer ensemble. Alors, d'abord, on va faire un espèce de petit bilan général de 2023. J'ai beaucoup hésité sur le titre de ce podcast, de cet épisode, parce que si je faisais un bilan traditionnel, entre guillemets, comme j'ai pu le faire sur mon compte Maeva Catalano ces dernières années, donc au moins ces deux dernières années, concrètement, ce bilan-là de 2023, purée, la mort à côté. Parce que j'ai fait énormément de choses en 2021 et en 2022. Et donc à côté, en 2023, je pourrais avoir l'impression, c'est pour ça que j'utilise conditionnel, l'impression de n'avoir rien fait, de n'avoir rien accompli. Si je regarde mes bilans traditionnels et si je regarde les bilans classiques qu'on peut trouver sur Instagram et partout ailleurs, 2023, c'est une année zéro pointée. Alors, je vous cache pas, ça a été une année très difficile. Vous savez pourquoi si vous avez suivi les podcasts et mes actualités dernièrement. De toute manière, on a tous des hauts et des bas, que ce soit personnel, professionnel ou de plein d'autres façons. Et c'est vrai que 2023 a été une année très très compliquée. 2020 avait été super compliqué pour moi. Et 2021-2022, j'avais eu une bouffée d'air pur, surtout du point de vue de l'écriture, lecture, etc. Donc là, avoir l'impression de replonger un peu, c'est un peu délicat. Et puis c'est surtout que avec les réseaux et avec les podcasts et bref, dans la création de contenu, même si on veut être authentique et partager le plus possible, on a quand même tendance à regarder le positif et à vouloir transmettre du positif. Et voilà, c'est un petit peu compliqué de trouver un équilibre. Donc, si on fait ce bilan classique en quelques secondes, par rapport à mes années précédentes, je n'ai pas fini de manuscrit. Je suis presque à la fin de la théorie des baguettes, dont on va parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas terminé. Et je ne sais pas si je l'aurai terminé pour le 31 décembre. Le but, c'est quand même de le terminer très très tôt en janvier, pour pouvoir vous l'offrir en 2024. Mais voilà, j'ai pas... faut que je m'active un peu, mais... Donc, pas de manuscrit terminé, zéro. Pas de publication, du coup, parce que ma dernière publication remonte à début décembre 2022, donc je n'ai pas sorti de livre. Zéro manuscrit, zéro publication, zéro contrat, Actuellement, je n'ai pas envoyé de manuscrit à des maisons. Je suis très bien en auto-édition, mais dans le futur, j'aimerais peut-être redevenir autrice hybride. Je pense que ça peut être intéressant. Actuellement, je suis super contente en indépendante, mais je ne ferme pas la porte. Donc, zéro manuscrit, zéro publication, zéro contrat. Je crois que c'est déjà pas mal au niveau des zéros. Et si, oui, allez, on peut dire, challenge d'écriture non réussi. J'en ai pas terminé un cette année, que ce soit les NaNoWriMo ou les Molanta. Enfin, j'ai pas participé au Molanta cette année, mais plutôt les moratons qu'on peut faire avec l'équipe des chameaux sur Discord. Ouais, même mes records personnels, mes attentes personnelles. J'ai vraiment essayé, mais cette année, c'était très compliqué niveau écriture de me tenir à mes propres deadlines, à mes envies. Et même si j'ai toujours été quelqu'un de super architecte, de super discipliné, cette année, c'était compliqué de continuer dans cette lancée. Et même côté écriture, plutôt côté lecture, j'ai pas réussi. Je crois que je m'étais mis comme objectif 24 livres, ce qui est moins que les années précédentes. Donc 2 livres par mois et je dois être à 14 en tout. Donc comme vous le voyez, j'ai eu des blocages dans plein de phases. Mais on essaye d'être bienveillant avec soi-même et se dire que c'est une année parmi tant d'autres. Et là, le bilan d'aujourd'hui, le but, c'est justement de faire ressortir le positif et rentrer un peu plus dans les détails. On va parler essentiellement de la théorie des baguettes. Donc si vous ne connaissez pas mon WIP, mon work in progress, comme on dit, mon manuscrit en cours, je vous invite à aller voir mes petites stories à la une sur Instagram. Mais j'en ai parlé un petit peu aussi dans les autres podcasts, donc n'hésitez pas à aller écouter ça également. Donc la première question, c'est quelle est la scène ou le livre ou le personnage que tu as préféré écrire? On va se concentrer sur LTDB, parce que j'ai écrit que la théorie des baguettes cette année, à part, la semaine dernière, une scène d'un roman, fallait que je la sorte, mais un roman à venir, mais qui n'est pas encore trop défini, donc à voir pour plus tard. Donc, je pense que ça serait la scène, ou devrais-je dire les scènes d'Halloween. Dans la théorie des baguettes, on commence presque au niveau de la rentrée scolaire, c'est un petit peu avant. Alors, ils sont pas du tout à l'école, hein. C'est deux trentenaires, mais au niveau du rythme, c'est plutôt fin d'été, début septembre. Et donc, Tommy et Teresa deviennent colocataires. Et en octobre, il y a la fête d'Halloween de Tommy, où forcément, Teresa et sa meilleure amie sont conviées. C'est le premier roman que j'ai écrit de deux points de vue. Donc, j'ai écrit des romans où il y avait une multitude de points de vue, comme par exemple la saga Under Heart, où il y en avait 97, je pense. Enfin, ça pouvait changer de narrateur à tous les chapitres, même si c'était pas un narrateur omniscient, hein, c'était le jeu. Et après, par exemple, pour Secret Love Song, j'avais vraiment la voix de Floriana, donc de l'héroïne qui me venait, mais très peu de Ben, donc le héros. Donc je n'ai eu que 5 chapitres bonus, du point de vue de Ben, mais un vrai point de vue divisé, donc deux points de vue, j'ai jamais écrit de livre et encore moins de romance de ce côté-là. J'ai toujours été dans la tête des héroïnes avant. Donc là, la scène d'Halloween, elle est vécue de deux manières totalement différentes. D'abord, c'est du point de vue de Tommy et après, c'est du point de vue de Teresa. Elle n'est pas vécue du tout de la même manière, ça c'est sûr et certain. Mais c'est une romance, donc vous vous en doutez, même si c'est un slow burn, il y a de l'attirance, il y a des non-dits, il y a un pseudo-rapprochement. Et je joue beaucoup sur la pop culture, parce que c'est une fête d'Halloween à thème Star Wars. Tommy est déguisé en Mandalorian et Teresa est déguisée en Leia. Et c'était trop cool. J'ai pu beaucoup beaucoup m'amuser. Il y a un moment plus poignant. Il y a un moment qui est beaucoup plus énervé, il y a un moment qui est beaucoup plus sexy, mais sur deux chapitres qui divisent une même soirée, ouais, je me suis vraiment éclatée et c'est une scène qui m'a vraiment habitée et animée. Donc j'avais sauté quelques chapitres d'ailleurs pour l'écrire avant de revenir sur mes autres chapitres, quoi, revenir en arrière parce que j'avais trop hâte. Voilà. La deuxième question, c'est ton plus grand accomplissement. Alors, ça, c'est une question super compliquée. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on regarde un bilan classique, je n'ai rien fait cette année, je n'ai rien terminé. Alors, je dirais peut-être d'avoir continué à écrire, d'avoir presque fini un manuscrit, de ne pas avoir abandonné, et malgré les difficultés, même si j'ai ramé, même si j'ai été un escargot, d'avoir continué et d'avoir surtout continué à être amoureuse de mes personnages. Parce que Tommy et Teresa, vraiment, je les aime, mais d'amour tellement fort, et peut-être même un peu trop. J'avais fait un post qui s'intitulait Un peu trop sur l'Instagram Maeva Catalano, où je disais que j'avais du mal à avancer, j'avais du mal à les laisser partir parce qu'en fait, je veux trop savourer les chapitres que j'ai avec eux. Et je suis moins dans le, j'allais dire, dégobillage, mais c'est, ouais, c'est Secret Love Song, je l'ai écrit presque en transe pendant un mois et quelques, même si après il y a eu des réécritures, des relectures, etc. Puis SSTRHU, c'était la même chose, mais divisée en un an. C'est-à-dire que j'ai écrit essentiellement en juillet-août 2021, puis boum, plus rien pendant presque un an. Et ensuite, même chose en 2022, parce que bah, y a eu des publications et le boulot entre. Mais voilà, c'était vraiment le côté, j'écrivais tous les jours, presque du matin au soir. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la théorie des baguettes. Ça fait plus d'un an, presque un an et demi que je suis sur le manuscrit. Et il y a eu des grosses pauses. Là, par exemple, bon, il y a le Podmas. Au mois de décembre, j'ai pas écrit grand-chose. Donc, ces pauses-là me font autant de bien que de mal. Ça me fait du bien parce que bah, j'en ai besoin. Et ça me permet de retrouver Teresa et Tommy d'une bonne manière et avec un bon état d'esprit. Mais de l'autre, forcément, je suis moins dans le move, quoi. Donc à chaque fois, il faut me réhabituer à eux, aux actions. Heureusement, j'ai un plan très très détaillé, donc c'est pas trop compliqué à suivre, mais ouais, faut se remettre dans le rythme et ça peut être un petit peu compliqué. Je dirais peut-être que mon plus grand accomplissement, ça serait le fait d'avoir rencontré les Vamps, donc mon groupe préféré qui a inspiré par leur musique Secret Love Song, donc j'ai pu leur parler et j'ai pu discuter du roman, j'ai pu le faire dédicacer, donc je pense que c'est vraiment le livre qui a le plus de valeur dans ma bibliothèque actuellement. Et j'ai fait un épisode sur le sujet. C'est le premier épisode de Tête à Tête, donc qui date de mai 2023, qui s'appelle J'ai rencontré le groupe qui a inspiré mon roman. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Ouais, c'est un assez bon accomplissement. Alors en soi, j'ai pas travaillé pour aller leur parler, mais bah, alors déjà, il a fallu battre la timidité. En tout cas, vraiment porter mes gonades pour leur dire salut. J'ai écrit un livre qui est inspiré de vos chansons. Mais le travail a été fait en amont avec le livre, quoi, avec Secret Love Song, donc c'est cool. La troisième question, c'est le plus gros défi que tu as relevé. Et je pense que c'est justement voilà, ce point de vue double, ce point de vue alterné, parce que, alors, bon, il y a des règles et pas de règles. C'est-à-dire que si vraiment je décidais de faire chapitre 1 Teresa, chapitre 2 Tommy et chapitre 3 et 4 Teresa, personne ne va m'interdire. Il n'y a pas une police des points de vue, tout comme il n'y a pas une police des plans détaillés et compagnie. Mais voilà, j'aime bien la symétrie et je trouve que c'est un exercice intéressant de vraiment avoir un point de vue alterné. Donc le défi, c'est parfois j'avais une scène quand j'ai eu l'idée qui était point de vue 1 et finalement je vais devoir le transformer en point de vue 2. Ou alors je vais tricher avec des chapitres qui vont être un peu plus longs et d'autres un peu plus courts. Donc c'est un peu une gymnastique, mais c'est assez intéressant. Ensuite, les chansons principales de ta playlist d'écriture. Alors, comment vous dire dans quelle mouise je suis? Parce que je vis pour la musique. Bon nombre de mes inspirations viennent de la musique. Comme je l'ai dit, Secret Love Song, de base, l'idée m'est venue en écoutant Just My Type des Vamps. Pour PSSTHU, c'est tout l'album Reputation de Taylor Swift. Et donc, vous vous doutez bien que pour la théorie des baguettes, il y a une énorme playlist. Et elle est si énorme qu'elle fait 7 heures. 7 heures et 2 minutes exactement. Donc, ça ne va pas être la playlist finale du roman, mais en fait, bah comme j'avais fait pour Secret Love Song, va avoir une playlist du roman, qui est un peu la playlist entre guillemets officielle, que je vais sans doute glisser avant ou après le livre dans le brochet, enfin j'allais dire oui, dans la publication, quoi, dans le BAT. Et il y aura deux autres playlists, une pour Tommy et une pour Teresa, qui sont un peu les playlists secrètes. Parce que il y a des musiques qui, pour moi, font vraiment sens et qui, vraiment, au niveau de leur personnalité, de leur comportement, collent à 100%. Par exemple, il y a 2-3 chansons, c'est clairement Tommy par rapport à son ex, mais du coup, ça fait pas forcément sens de l'avoir dans la playlist principale. Mais actuellement, pour rédiger, j'ai besoin des 7 heures. Donc je vais vous en citer quelques-unes, mais je vous invite à aller écouter la playlist et je vous la mettrai en lien, parce qu'on passe par plein d'émotions, il y a plein de choses qui se mélangent. La première, ça serait Love of My Life de Harry Styles, qui, on pourrait penser qu'elle parle, c'est une musique d'amour, enfin une chanson d'amour, qu'elle parle d'une femme, et il y a effectivement cette métaphore, mais pour Harry, j'avais vu une explication qui disait qu'il s'adressait à son pays, en fait, de naissance, donc l'Angleterre, parce que depuis, il a déménagé à Los Angeles, ou en tout cas aux États-Unis, et toute sa vie est là-bas. Et donc, je trouve ça assez intéressant d'avoir ces deux compréhensions, l'amour féminin et la patrie, on va dire, le pays. Et donc, comme ça se passe à Londres, pour ce manuscrit, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a Cold as Ice de Foreigner, qui est vraiment comment Tommy voit un peu Teresa. Le fait que il la voit tellement détachée, alors que lui, il est très passionnel, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Il y a Your Type de Carly Rae Jepsen, et c'est le contraire. Donc ça, c'est vraiment la chanson de Teresa, où elle pense qu'elle n'est pas du tout le type de personne, j'allais dire de meuf, mais non, de personne, pour Tommy. Et ô combien elle se trompe, mais elle va devoir l'apprendre et le comprendre. Il y a Thérèse de Maya Hawke, et ça c'est aussi parce que c'est le prénom de Teresa. Les prénoms et les noms me viennent aussi souvent de séries et de musique, et j'avais déjà eu l'idée de Teresa, mais cette musique me l'a confirmé. Il y a Paper Houses de Niall Horan d'ailleurs, faut que j'arrête avec les prononciations anglophones, qui est une très belle musique, mais qui montre que les deux loustiques aussi, ils ont pas mal de chemin à faire et de deuil à faire sur d'anciennes relations et sur ce que voit ou pense voir d'eux, leur entourage et leur famille. Il y a Sacred de Nina Nesbitt. C'est plutôt pour les envies de Teresa, ce qu'elle attend d'une relation et même de ses amitiés. Et il y a Lights On de Shawn Mendes, qui est sur plutôt la confiance en soi et qui exprimerait vraiment le désir de Tommy pour Teresa et la façon dont il a envie de la vénérer, même si elle n'aime pas toujours ses formes et qu'elle a des problèmes de confiance. Lui ne voit pas du tout ça. On est déjà à 18 minutes et j'ai fait 4 questions. Très bien, Maëva, continuons. Ensuite, une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné. Comme beaucoup de fois, je me laisse souvent étonner et surprendre par mes personnages secondaires. Par exemple, dans Secret Love Song, je sais que énormément de personnes ont aimé Kenneth, qui est le meilleur ami du héros, et j'ai kiffé l'écrire, mais de base, je le voyais pas prendre autant de place. Dans PSS I Hate You, on a, j'allais dire Maritza, mais non, on a Lupita, Penelope, la meilleure amie de l'héroïne, et pareil, avec un état d'esprit, une personnalité très pétillante. Et là, encore une fois, c'est souvent les meilleures amies. Donc il y a Addie Burton, qui est la meilleure amie de Teresa, qui est également actrice. Et il y a toute une storyline avec elle que je n'avais pas du tout prévue. Et elle n'est pas terminée là, au moment où j'en suis. Et j'adore. En fait, vraiment, c'est quelque chose dont j'ai eu l'idée ensuite. Et ça colle parfaitement. Ça lie avec Teresa, mais ça lie aussi avec Tommy. Ça lie avec leur entourage et j'ai hâte de voir comment je peux goupiller tout ça. Et sinon, il y a un autre personnage qui s'appelle Moira, qui fait partie du groupe de Donjons et Dragons de Tommy, qui est presque sa seule amie fille à ce moment-là. Et même chose, elle n'était pas censée prendre autant de place. Pourtant, les deux, là, Harriet et Moira, sont aux antipodes totalement. Je pourrais vous en parler plus en détail une prochaine fois. Mais très très cool de trouver un équilibre avec ces deux-là. Ensuite, celles et ceux qui t'ont inspiré et motivé cette année. Donc, bah, niveau écriture, j'ai trois noms qui me sont venus en tête, là, en prenant des petites notes avant de prendre le micro. La première, c'est Sophie Gliocas, que j'ai pu interviewer l'année dernière sur le podcast. C'est une autrice et même une créatrice de contenu que j'admire beaucoup et ça fait des années puisque je l'ai suivie sur internet pendant très très longtemps sur plein de formats et de médiums différents. Par exemple, en ce moment, j'adore sa newsletter, je vous la conseille vraiment. Donc j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa charte graphique, j'aime beaucoup la façon dont elle communique et j'avais adoré notre échange, donc voilà. Ensuite, d'un point de vue anglophone, il y a Ali Hazelwood qui a écrit notamment The Love Hypothesis. J'avais parlé de ce roman dans les livres qui m'ont inspiré, les livres que j'aurais entre guillemets aimé écrire. Et du coup, tout le déclic autour de cette autrice, de sa plume, de ses romans. Voilà, vrai coup de cœur. Donc j'ai hâte d'ailleurs de lire ses autres projets parce que je suis un peu à la ramasse. Et ma dernière inspiration du moment. Alors pareil, j'ai pu échanger avec elle cette année, c'est Clara Hero. Et d'autant plus avec sa romance de Noël, L'effet boule de neige, que je viens de terminer, que j'ai dévoré. Et vraiment, immense coup de cœur. Et en plus de ça, je pense qu'on a réellement besoin en romance de héros comme Alex, donc le héros de L'effet boule de neige. Et même son héroïne, hein, Iris et Extra. Donc la relation qui est pas du tout toxique. Il y a le côté quand même ténébreux, il y a le côté, oh, on pourrait croire que c'est un bad boy, mais le consentement, la communication, la bienveillance, juste les good guys en fait. C'est vraiment, ça m'a réchauffé le cœur et je pense que c'est un exemple de relation et de héros qu'on pourrait encore plus mettre en avant en littérature. Donc forcément, c'est quelque chose que j'aspire à faire également. Ensuite, une autre question, c'est une période difficile que tu as traversée cette année en rapport à l'écriture. Alors, je suis passée par pas mal de périodes compliquées vu que j'ai pris des grosses pauses. Je pense que le plus compliqué c'était me mettre la pression. Parce que j'ai eu ce blocage où je voulais garder énormément de temps avec mes personnages, mais en même temps, comme je suis autrice indépendante, que j'ai deux casquettes, j'ai mon boulot de jour entre guillemets, et cette casquette-là, mon but c'est de me professionnaliser davantage. Et donc ça serait bien si je pouvais avoir au moins une sortie par an, ce qui n'est pas le cas en 2023, une ou plus. Donc je m'étais mis beaucoup la pression pour, faut que tu écrives plus vite, il faut que tu finisses ce manuscrit, il faut que tu le sortes à telle date, et si, et ça, et ça. Et en soi ça peut être moteur, mais personnellement cette année ça m'a vraiment immobilisée, complètement bloquée, et c'est assez dommage. Donc ouais, ma leçon c'est un peu de me détacher de ça. Oui, mon but c'est d'être plus prolifique, mais je veux pas perdre ma passion, donc ouais, va falloir travailler sur un juste milieu. La plus belle critique que tu as pu avoir cette année. Alors c'est compliqué parce que j'en ai pas là sous les yeux, mais alors je pourrais revenir sur, comme je disais dans la première fois que je me suis sentie autrice, un des premiers podmas de cette année, c'est les premières fois où j'ai réussi à faire chialer des gens, j'ai réussi à faire pleurer des lectrices, notamment en romance. C'est toujours très très fort et effectivement le fait de passer ses émotions c'est la meilleure critique, review possible, on est d'accord. Mais là, comme j'ai pas eu de publication directement, même si j'ai eu forcément des retours par rapport à Secret Love Song ou PSS Tiaritu cette année, si on reste sur la théorie des baguettes, je pense que ça serait tout simplement les retours de mes bêta lectrices. Coucou Jess, Marine et Alexia. Qui sont même des alpha lectrices, je devrais dire, ça dépend des phases, mais qui ont lu maintenant les deux tiers du roman par partie. Donc il y a eu la toute première partie, le milieu, puis là, les trois quarts. Et je sais qu'elles ont envie de me tuer. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration. Je sais que ça râle parce que c'est ultra slow burn, mais en même temps, on y sent le plaisir et on y sent... Je vais dans le bon sens. En tout cas, il n'y a pas eu de gros couacs ou des choses qu'elle comprenait pas ou ce genre de choses. Donc, pour cette année, voilà, je vais me concentrer sur ça et de me dire que je suis un peu dans la même vibe que ce que j'ai pu faire pour mes autres romances. Et donc, ouais, j'ai l'impression d'être sur le bon chemin et c'est réconfortant. Ensuite, ton nouveau personnage préféré. Très compliqué parce que bah, je les aime les deux. Enfin, je pense que aujourd'hui je vais dire Tommy, honnêtement, mais demain je vous dirai Teresa. Et oui, il y a des personnages secondaires, mais il faut savoir que ce roman est presque un huis clos. C'est vraiment l'aspect sitcom, c'est vraiment l'aspect une scène, un chapitre commence quand un rentre dans la pièce, donc le salon, ou rentre à l'appart, etc. Et se termine quand un claque la porte, ou quitte la pièce, ou peu importe. Il y a des chapitres qui se passent en extérieur, sur notamment leur lieu de travail, mais 99% de l'action se passe comme un huis clos dans cet appartement. Ce qui fait vraiment sitcom, vous savez, comme quand on filmait devant une audience, un public live, donc quand il y avait les sets style à la Friends, même The Big Bang Theory, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est un peu un défi aussi cette année. Et donc, les personnages passent énormément de temps bah, l'un avec l'autre. C'est un peu compliqué de les départager. Mais là, aujourd'hui, je dirais Tommy, de par sa personnalité, c'est la première fois que j'ai un point de vue masculin aussi fort dans ma tête. Vraiment, les mots, pour certaines scènes, me venaient même plus facilement que le point de vue, que le cerveau de Teresa. Donc, c'est super intéressant. Et ce petit a beaucoup d'amour à donner. Parfois très immature malgré ses 35 ans. Je pense que ça, c'est une critique sur laquelle je vais la recevoir, ça, c'est sûr et certain. Mais, ouais, beaucoup d'amour, quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui est complètement loyal, qui pourrait mourir pour ses amis, qui n'a pas perdu son âme d'enfant, qui aime son métier, qui a pas mal de regrets, qui a peut-être aussi des problèmes de confiance en lui, même si c'est pas du tout les mêmes que Teresa, et qui a besoin d'un petit coup de pouce, quoi. Envie de lui faire un câlin. Teresa aussi, mais... voilà. Une autre question, une chose que tu as appris cette année, toujours bah, par rapport à l'écriture, je pense que ce que j'ai appris, c'est vraiment laisser le temps au personnage de s'apprivoiser, parce que moi je les connais, mais dans les dialogues, ça c'est vraiment un truc qu'on peut pas sortir hors contexte écriture, parce que vraiment si on parle à des gens qui n'écrivent pas et qui sont pas du tout dans le monde livresque, qui s'y intéressent pas, ça fait un peu perché, mais mes personnages quand je les écris, bah ouais, je suis avec eux dans l'appartement, quoi. Il y a ce côté huis clos, je les mets dans une boîte, je la secoue et ils interagissent, d'accord. Donc je me suis laissée surprendre plus d'une fois par... C'est pour ça qu'on dit souvent, oui, les personnages ils font ce qu'ils veulent. Oui, on est marionnettiste en tant qu'auteur, mais si vous vous êtes jamais laissé surprendre par vos personnages, franchement, chapeau. Parce que même étant ultra architecte, bah, y a toujours des dialogues où tu dis, waouh, ok, ils sont allés jusque-là. Voilà. Une autre chose que j'ai pu apprendre, c'est justement le fait de lâcher un peu plus prise, de par bah, la pression que je me mettais niveau rendement, niveau écriture, mais surtout... que tous les manuscrits sont différents, et donc oui, je suis ultra architecte, cartographe, exploratrice, peu importe, mais, par exemple, cette année, pour ce manuscrit, tout est ultra défini sur Notion, mais mes fiches personnages et mes carnets sont presque vides. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et à chaque fois, je suis en mode, bon, je le ferai ce week-end, je le ferai ce week-end, je le ferai ce week-end, et en fait, j'ai écrit les trois quarts du roman sans avoir des fiches personnages ou, je vais pas dire de plan parce que c'est pas vrai, il est super détaillé, mais les péripéties ou le dénouement en tête, ce qui m'arrive jamais. Donc peut-être que ça va être un gros problème au niveau de la réécriture, ça c'est un problème pour mon moi futur, mais je me dis aussi que ça fait du bien de savoir épauler, de savoir que j'ai la charpente avec mon plan, mais qu'après ma maison, je la remplis un peu comme je veux, quoi. Je finis mes travaux comme je peux. Donc voilà. À voir sur la suite ce que ça donne, si c'était positif ou négatif à la fin. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris cette année. Et donc, la dernière question, tes objectifs pour l'année prochaine, écoutez, on va rester très simple. Finir le manuscrit s'il n'est pas terminé au 31 décembre. Sortir la théorie des baguettes. J'aimerais énormément au premier trimestre, donc d'ici mars. On verra. En tout cas, ça serait le plan. Et après, je peux me consacrer à d'autres choses. Mais ensuite, revenir sur des bonus. Donc, écrire le bonus qui va se passer à Las Vegas de Secret Love Songs. Donc, c'est un peu comme un tome 1.5 de Coffee First. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Ça, c'est un truc que j'aimerais en plus vous offrir, notamment dans ma newsletter. Donc, vraiment travailler un peu plus les bonus entre justement des gros projets pour m'aérer l'esprit. Peut-être, pourquoi pas, travailler sur une nouvelle ou un petit recueil de petites scénettes, de petites histoires avec tous mes personnages à la période de Noël pour l'année prochaine. Voilà, ça peut être une idée comme ça. Et bien sûr, commencer et finir un autre manuscrit. On verra lequel, on verra si c'est le cas, on verra s'il y en aura plus ou pas. Mais actuellement, j'aimerais énormément écrire PIC, j'allais vous dire le titre. Donc PIC, qui est ma prochaine romance hockey sur glace et patinage, qui va se passer au Canada, dans les alentours de Vancouver. Ça fait plus d'un an que je vous en parle, et ça fait, oui, presque 2 ans que j'ai eu l'idée. Ça fait 2 ans que j'ai eu l'idée, donc ça fait 2 ans que je vous en parle. Parce que ça fait 2 ans que je suis allée à Vancouver, et j'ai eu l'idée avant. Donc ça fait au moins 2 ans et demi que j'ai eu l'idée. Mais la vie a fait que je l'ai pas encore écrit, donc ça serait ma priorité. Mais, encore une fois, je veux pas trop m'avancer, parce que la théorie des baguettes n'était pas prévue, et les personnages se sont vraiment assis sur mes genoux, quoi. Ils m'ont dit, tu vas nous écrire maintenant. Donc peut-être que l'année prochaine, on refait ce bilan. Et je vais vous dire, alors j'ai toujours pas écrit PIC. Et j'ai écrit ta-ta-ta-ta-ta en attendant. Parce que voilà. Donc on verra où l'inspiration me mènera. Mais dans tous les cas, j'ai hâte d'échanger avec vous sur le sujet. J'ai hâte qu'on puisse parler de la théorie des baguettes, donc de ma rom-com et des nouveaux manuscrits, quoi. Donc si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve demain pour le dernier épisode des Podmas. Encore une fois, bon réveillon, joyeux Noël et à très vite. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut !